Semaine Sainte 2025. Semaine Sainte 2025. Le Triduum Pascal, en direct de l'abbaye bénédictine de Tournailles. Office de la Passion.
Eh oui, bienvenue à tous à l'abbaye de Tournailles, où nous sommes installés depuis hier pour vivre avec la communauté bénédictine les offices de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, bien sûr, Vendredi Saint, c'est l'office de la Passion que nous allons vivre, qui sera marqué particulièrement par deux temps forts, la lecture intégrale de la Passion de Jésus et puis par la vénération de la croix. Les moines sont dans les stalles, les célébrants viennent d'entrer et ils se prosternent, totalement allongés sur le sol devant l'autel. Au-dessus de l'autel, le Christ en croix, qui est suspendu habituellement, a été recouvert d'un tissu rouge. Ils sont venus nombreux participer à cette célébration et nous allons entrer de suite dans ce temps fort de la Semaine Sainte.
Seigneur Dieu, par la passion de Christ et ton Fils, notre Seigneur, tu vas détruire la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous la loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils, du fait de notre nature, et nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. De même que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel. Par le Christ notre Seigneur.
D'emblée, cette célébration commence par la liturgie de la parole. La première lecture est issue du livre d'Isaïe, chapitre 52, versets 13 à 53.
Prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Suis le psaume 30 avec ce refrain « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ».
Amen. comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Je suis sûr de toi, Seigneur, je dis tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur.
La seconde lecture est un extrait de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 14 jusqu'au chapitre 5, verset 9.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. Celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
L'Évangile, bien sûr, va être la lecture de la Passion. Elle est tirée de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 18, à partir du verset 1 et jusqu'au chapitre 19, verset 42. Et voici l'acclamation de l'Évangile. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Thank you. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Il y avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit :
Qui est-ce chez vous ?
Ils lui dirent :
Jésus, le Nazaréen.
Il leur dit :
C'est moi, je le suis.
Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau
« Qui cherchez-vous ? »
Ils dirent
« Jésus, le Nazaréen. »
Jésus répondit
« Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. » Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir.
Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Or, Simon Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre :
Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?
Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple.
Ô Seigneur, de ta passion glorieuse, nous t'acclamons, Sauveur de
Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui garnait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre :
Pas toi aussi un des disciples de cet homme ?
Il répondit :
Je ne le suis pas.
Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit :
Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit Demandez-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que je dis. »
À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant
« C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?»
Jésus lui répliqua
« Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?»
Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit
« N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?»
Pierre le nia et dit
« Non, je ne le suis pas. »
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista
« Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?»
Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta.
Nous souvenons, Seigneur, de ta passion glorieuse. Nous t'acclamons, Sauveur du monde.
Christ, pour nos péchés, Christ,
on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda
« Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?»
Ils lui répondirent
« S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. »
Pilate leur dit
« Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. »
Les Juifs lui dirent
« Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. »
Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors, Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit
« Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus lui demanda
« Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?»
Pilate répondit
« Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?»
Jésus déclara
« Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des grandes qui se seraient battues pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici.
Pilate lui dit,
alors tu es roi.
Jésus répondit,
c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix.
Pilate lui dit,
qu'est-ce que la vérité ?
Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara,
moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?
Alors ils répliquèrent en criant.
Pas lui, mais Barabbas.
Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne et ils lui posèrent sur la tête. puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient
« Salut à toi, roi des Juifs !»
Et ils le giflaient.
Nous souvenons, Seigneur, de ton jugement. Nous t'acclamons, Sauveur du monde.
De nouveau, sortit dehors et leur dit
« Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara
« Voici l'homme. »
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier
« Crucifie-le, crucifie-le !»
Pilate leur dit
« Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »
Ils lui répondirent
« Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. »
Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus
« D'où es-tu ?»
Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors
« Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?»
Jésus répondit
« Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. »
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier
« Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. »
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs,
« Voici votre roi. »
Alors ils crièrent,
« à mort, crucifie-le. »
Pilate leur dit,
« Vais-je crucifier votre roi ?»
Les grands prêtres répondirent
« Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. »
Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié.
Nous souvenons, Seigneur, de ta condamnation. Nous t'acclamons, Sauveur du monde.
Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate,
« N'écris pas « roi des Juifs », mais « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ».»
Pilate répondit,
« Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. »
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux,
« Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. »
Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère,
« Femme, voici ton fils. »
Puis il dit aux disciples,
« Voici ta mère. »
Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit,
« J'ai soif. »
Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit,
« Tout est accompli. »
Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Nous souvenons, Seigneur, de ta mort sur la croix. Nous t'acclamons, Sauveur du monde.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Dans l'attente, Seigneur, de ta résurrection glorieuse, nous t'acclamons, Sauveur du monde.
Dieu a exposé le Christ sur la croix par l'offrande de son sang pour manifester au temps présent ce qu'est sa justice qui sauve. Telle est sa manière d'être juste et de rendre juste celui qui met sa foi en Jésus. Frères et sœurs, nous voici au sommet de l'année jubilaire. Voilà notre foi qui sauve, la foi qui triomphe du monde, la foi à propitiation par laquelle nous faisons notre le salut accompli par le Christ, nous revêtons le manteau de sa justice. D'un côté, il y a la main tendue de Dieu qui offre sa grâce à l'homme. De l'autre, la main de l'homme qui s'étend pour l'accueillir avec foi. La nouvelle alliance éternelle est scellée par une poignée de mains entre Dieu et l'homme. Nous avons la possibilité de prendre, ce jour-là, la décision la plus importante de toute notre vie, celle qui ouvre grand les portes de l'éternité, croire. Croire que Jésus est mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Dans une homélie pascale du IVe siècle, voici que disait l'évêque dans un langage extraordinairement moderne et existentiel. Pour chaque homme, le début de la vie est celui à partir duquel le Christ s'est immolé pour lui. Mais le Christ s'est immolé pour lui au moment où il a reconnu la grâce et où il est devenu conscient de la vie qui lui a été donné par cette immolation. La seule chose qu'on nous demande, c'est de ne pas nous cacher comme Adam après la faute, de reconnaître que nous avons besoin d'être justifiés. Que nous ne nous justifions par nous-mêmes. Les publicains de la parabole monta au temple et fit une très courte prière. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Et Jésus dit que cet homme est redescendu dans sa maison. Il a été devenu un homme justifié, c'est-à-dire devenu un homme juste, pardonné, un autre homme, en chantant allègrement. J'en suis sûr dans son cœur. Qu'avait-il fait de si extraordinaire? Rien. Il s'était mis dans la vérité devant Dieu. Et c'est l'unique chose dont Dieu a besoin pour agir.
Nous allons maintenant prier ce qu'on peut appeler la grande prière universelle, qui est un reliquat de très ancienne liturgie orientale où le diacre va présenter des intentions de prière et le prêtre proposera l'oraison qui suit.
Calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant.
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le Collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu.
Dieu éternel et tout puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque des hommes que tu nous as choisis, afin que, sous la conduite de ses pasteurs suprêmes, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur.
Prions pour notre évêque Jean-Marc, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles.
Dieu éternel et tout puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous les péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur.
Tout-Puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente à nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême, ne prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Amen. Amen.
Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église.
Dieu éternel et tout puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux quand même et baptême à consacrer d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par les liens de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Amen. Amen.
Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité. Ne donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement les mystères de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même.
Dieu éternel et tout puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable, mais que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tout au milieu des difficultés qui les font obstacle, discerne le signe de ta tendresse, ne perçoive le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous.
Dieu éternel et tout puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent les pouvoirs sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse les famines, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut.
Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
cette longue prière universelle qui est importante parce que justement c'est le salut universel que nous fêtons en ce jour, que nous célébrons par la mort du Christ sur la croix. Salut non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Va avoir lieu la vénération de la croix. Le célébrant, accompagné de deux autres moines, s'est rendu au fond de l'église pour chercher cette croix qui va remonter l'allée centrale et qui va ensuite être proposée à la vénération de ceux qui participent à cette célébration. La célébration s'achèvera ensuite par la communion, communion aux hosties consacrées lors de la messe d'hier, car aujourd'hui il n'y a aucune célébration, aucune consécration des hosties dans aucune église du monde. Cette première station donc est faite au fond de l'église. La croix qui est voilée a été dévoilée d'un côté seulement. À la seconde station, l'autre côté sera dévoilé. Et enfin, à la troisième station, toute la croix du Christ sera dévoilée. Et le célébrant arrive maintenant avec la croix dans le cœur pour la troisième acclamation de la croix, cette fois totalement dévoilée. Le célébrant s'est placé à genoux devant cette croix. Cette croix est assez grande, elle fait une hauteur d'homme environ. Elle est ornée d'un crucifix. Et le célébrant va donc être le premier à vénérer la croix qui sera ensuite proposée à la vénération de tous ceux qui le désirent. les moines sortent de leur stalle et vont vénérer l'un après l'autre la croix du Christ, se mettant à genoux devant elle et suivant les cas, embrassant les pieds de Jésus ou posant simplement la main. Et ensuite, c'est le peuple des fidèles qui sera invité ainsi à vénérer la croix.
Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Je portais cette couronne, manteau royal empourpré. Toi, tu rougis de confesser le Fils de Dieu parmi les hommes.
La vénération de la croix se poursuit. Évidemment, c'est peut-être un petit peu long, mais il y a beaucoup de participants qui sont venus pour cette célébration à l'abbaye de Tournai, qui a un grand rayonnement dans cette région. Nous ne sommes pas loin de Lourdes, pas loin de Tarbes, pas loin de Lannemezan. Et donc, voilà, le rayonnement de l'abbaye est, justifie, j'allais dire, la présence de cette foule assez nombreuse qui continue à s'avancer les uns après les autres pour vénérer la croix de Jésus qui est tenue par deux moines. Elle est tenue verticalement. Parfois, il arrive que dans certaines célébrations, la croix soit placée plutôt à l'horizontale. Et chacun donc s'agenouille devant la croix pour embrasser les pieds de Jésus.
Sur l'enfer se refermer.
Le diacre, accompagné de deux moines, se rend dans la chapelle où a été disposé hier soir le ciboire avec les hosties consacrées pour procéder à la communion qui va avoir lieu maintenant. Le ciboire est resté toute la nuit donc dans cette chapelle. Les uns les autres ont pu venir prendre un temps d'adoration dans cette chapelle. Et ensuite, eh bien, il repartira. On ne réinstallera pas ce soir encore la présence réelle dans l'église principale. Le diacre revient donc maintenant avec le ciboire et les hosties qui vont être distribuées à la communion.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Le prêtre célébrant distribue la communion aux moines, tout d'abord, puis ensuite il s'avancera jusqu'à la limite du chœur pour distribuer la communion aux fidèles qui se sont rassemblés en ce jour. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'abbaye de Tournaille et que nous participons à la célébration de l'Office de la Passion. Nous serons encore bien sûr à Tournaille demain et dimanche. Je peux peut-être en profiter pour vous donner les rendez-vous de demain pendant que la communion est en train d'être distribuée. Demain, au niveau liturgique, nous aurons rendez-vous à 7h pour l'Office de l'Aude, à midi pour l'Office du milieu du jour, à 14h pour l'office de nonne, 18h pour l'office de vêpres, enfin 21h30 pour la vigile pascale. Alors vous le constatez comme moi, cet office a de grands temps de silence. Et il faut comprendre pourquoi, parce que nous sommes vendredi saint, nous venons de commémorer la passion, la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Ce n'est donc pas à proprement parler un office festif. C'est un office qui est très recueilli, qui est très sobre, et qui nous fait communier avec cette passion de Jésus. L'office de demain, bien sûr, la vigile pascale, sera beaucoup plus festive, puisque nous pourrons laisser s'exprimer la joie de la résurrection. Et notamment autour du feu de la Pâque. Là, aujourd'hui, c'est le recueillement, c'est le silence, c'est Jésus qui est déposé au tombeau. C'est ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne le grand silence. Tout se tait. Jésus est dans le tombeau. Les apôtres sont dans la peine, nous allons dire. Et sans doute dans le doute, dans une grande souffrance intérieure. Et devant tant de souffrances, devant cette mort de Jésus, j'allais dire inattendue, oui, inattendue sans doute pour ceux qui l'accompagnaient et qui n'avaient pas compris que, même s'il leur en avait parlé auparavant, que les choses prendraient cette allure, c'est sans doute dans leur cœur beaucoup de questions, d'interrogations, beaucoup de peur aussi, parce que ce qu'ils ont fait à Jésus, pourquoi ne le ferait-il pas à ses disciples? Sans doute les apôtres aussi sont dans cette peur de la persécution, de l'arrestation. Et voilà, c'est le grand silence, Dieu ne parle plus, le Verbe qui s'est fait chair s'est tu. Et les pères de l'Église, prenant une image, disent que dans le tombeau, Jésus est comme un lion qui dort. Le lion, emblème de la tribu de Judas, dont est issu Jésus, la tribu royale, la tribu messianique, le lion s'est endormi.
Aucun chemin dans la mer, aucun feu traçant la route, pas d'exode triomphal, pas d'issue aujourd'hui pour le premier-né.
Sur
renouvelé par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service et notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur.
Amen. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Le célébrant s'agenouille une dernière fois devant la croix et va se retirer. Chaque moine sortant des stalles s'agenouille également devant la croix, puis se retire en silence. Et c'est ainsi que s'achève cet office de la Passion.